Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Bienvenue sur CNews. C'est la parole aux Français qui démarre. On commence bien sûr par le journal. Bonjour Michael Dorian.
Bonjour Clélie, bonjour à tous. Gérald Darmanin lance une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Le ministre de l'Intérieur l'avait annoncé sur ses réseaux sociaux. Des flyers seront distribués pour rappeler à chacune et chacun les gestes à avoir lorsqu'on est témoin ou victime d'une agression. Les explications d'Adrien Spiteri.
Ce flyer sera distribué à partir de demain et tout au long de l'été par les policiers et gendarmes. 5 millions de tracts pour lancer une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Composé d'un QR code, le flyer redirige vers le site du ministère de l'Intérieur, massécurité.fr. Il permet de signaler des faits et discuter avec les forces de l'ordre 24 heures sur 24. Il explique également les démarches à suivre si l'on est victime ou témoin d'une agression. Les réactions à cette campagne sont mitigées. Certaines femmes estiment ne pas être suffisamment entendues.
Mais c'est bien que le gouvernement s'y penche maintenant, mais c'est un peu tardif. Et moi, je crois que les tracts ne feront rien. Qu'ils communiquent, qu'ils fassent des pubs voilà, en masse pour que chacun, que ça touche chacun d'entre nous, en fait.
Moi, je me sens très bien quand je voyais dans la police ou une sécurité ou quelqu'un qui... Je me sens beaucoup mieux.
Il faut aussi surtout éduquer les... Bah, c'est malheureusement souvent les hommes quand même qui agressent les femmes. Il faut aussi éduquer les jeunes. Il faut que tout le monde puisse se mobiliser.
En 2020, 220 000 personnes ont été enregistrées comme victimes d'infractions sexistes. Selon le Haut Commissariat à l'égalité, 86% sont des femmes. 16% d'entre elles sont mineures.
5 000 patients appelés à se faire dépister du VIH, de l'hépatite B et de l'hépatite C à Lyon. Ils ont potentiellement été exposés à un risque infectieux pendant leur passage dans un centre dentaire entre mai et décembre 2022. Le cabinet ne respectait pas les règles de stérilisation du matériel. Ils ont tous été contactés par mail au début du mois. 5 jours pour mettre fin à la pollution plastique. Les négociations sur un futur traité international reprennent aujourd'hui à Paris. Les représentants de 175 nations se retrouvent aujourd'hui au siège de l'UNESCO. Il faut dire que l'enjeu est de taille car le plastique est partout. Sa production annuelle a plus que doublé en 20 ans pour atteindre 460 millions de tonnes. L'actualité internationale à présent est l'euphorie en Turquie. Recep Tayyip Erdogan a été réélu pour 5 ans à l'issue d'un second tour inédit. Déjà au pouvoir depuis 20 ans, le président sortant a obtenu 52,16% des suffrages. Il a rapidement pris la parole pour remercier ses électeurs. On l'écoute.
Je tiens à remercier chacun des membres de notre nation qui, une fois de plus, nous ont confié la responsabilité de gouverner le pays pour les 5 prochaines années.
Et puis seriez-vous prêt à rester allongé 60 jours contre la coquette somme de 18 000 euros? C'est l'expérience menée par la Clinique spatiale de Toulouse dans le but de préparer les futurs vols vers la Lune ou vers Mars. Au total, 12 volontaires ont été choisis parmi plus de 3 000 candidatures reçues. Viviane Hervier.
Ils sont 12 volontaires, choisis parmi 3000 candidats. Ils ont accepté de passer 2 mois allongés. Interdiction de se lever, même pour manger. L'inclinaison de moins 6 degrés est régulièrement vérifiée par un personnel de l'équipe médicale afin que la tête soit toujours plus basse que les pieds.
Ça permet de simuler au sol les effets de la micro-pesanteur. C'est-à-dire que ça reproduit au sol les effets sur l'organisme humain que les astronautes ressentent quand ils sont dans l'espace.
L'expérience menée ici à Toulouse, dans une structure du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, a débuté il y a 5 semaines et les effets se font déjà sentir.
Physiquement, on a vu quand même que les muscles sont devenus plus souples. Enfin, on est vraiment complètement détendu pour le coup.
Pour lutter contre l'atrophie musculaire, la perte d'os ou encore les troubles cardiovasculaires induits par la pesanteur, les volontaires effectuent régulièrement des exercices.
On met en place des protocoles de contre-mesure qu'on teste ici en amont avant de les appliquer dans l'espace. Donc en fait, ici, ils font de l'exercice avec la centrifugation en même temps.
La centrifugeuse est censée recréer une gravité artificielle. Il s'agit donc d'évaluer si l'exercice du vélo effectué dans la centrifugeuse est plus efficace. Si les résultats sont concluants, cette gravité artificielle pourrait être recréée à bord des futures missions dans l'espace.
Attention à la tête qui tourne. Hein. Voilà pour ce journal Clélie, c'est à vous pour La Parole aux Français en compagnie de vos invités, bien sûr.
Je ne sais pas si l'expérience me tente, mais c'est intéressant certainement. Merci Mickaël, on se retrouve à 15h pour le grand journal de l'après-midi. Bonjour à tous, donc c'est La Parole aux Français, l'émission dans laquelle vous avez la parole. Et si vous souhaitez témoigner, intervenir, n'hésitez pas. Témoin au pluriel, @cnews.fr. Je suis en compagnie de Thomas Scarpellini et Yvan Rivol. Soyez les bienvenus.
Bonjour.
Au programme aujourd'hui, on va commencer avec Montpellier. Pourquoi ? Parce que depuis ces derniers jours, et on va en parler, des commerçants, des piétons aussi d'ailleurs, des riverains, ont été agressés dans cette ville. Ce sont soit des voleurs, soit des inconnus qui pénètrent dans les boutiques et qui frappent de manière totalement gratuite et évidemment dérobent des choses. Il y a eu plusieurs faits divers. On va s'intéresser donc à ce qui se passe dans la ville de Montpellier aujourd'hui. Nous sommes en ligne avec Odette Daudet, qui est présidente de l'association des commerçants de l'Écusson, du quartier de l'Écusson à Montpellier. Bonjour madame, merci d'être en direct avec nous. Et je salue également David Leroux, qui est policier, secrétaire zonal Occitanie, Alliance Police. Bonjour, merci également de nous éclairer sur ce qui se passe, sur la situation évidemment dans cette belle ville de Montpellier. Odette Daudet, comme vous représentez un petit peu les commerçants de ce quartier spécifique de Montpellier, je voudrais avoir votre sentiment. Vous avez l'impression que ces derniers temps, l'insécurité est plus grande à Montpellier ?
Oui, tout à fait. On a une recrudescence qui est très importante. Et la police en est consciente, tout le monde en est conscient. Et là, justement, on est en train de travailler ensemble pour essayer de trouver des solutions. Parce que malheureusement, c'est assez récurrent, c'est assez grave ce qui se passe. Et l'impunité fait que ça recommence et ça ne s'arrête jamais. On souhaite au moins qu'il y ait au moins que les gens, que la police soit un peu plus soutenue par la magistrature. Parce que le problème, il est là, il n'est pas ailleurs. Ça dure une heure au commissariat, après ils sont tout de suite relâchés et ça recommence sans arrêt. L'impunité leur donne tous les droits.
Oui, donc vous ne mettez pas en cause le travail de la police, ça tombe bien, puisque comme on a un policier quand même avec nous, on va lui demander aussi, vous allez pouvoir discuter entre vous. Oui, au contraire, vous disiez ?
On travaille ensemble,
ouais.
on est tout un groupe, on a un groupe WhatsApp, on a un mail, on essaye de travailler ensemble, mais ils ne peuvent pas faire mieux que de les arrêter, et puis quand ils sont relâchés, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Ils prennent des risques pour rien en fait.
David Leroux, vous confirmez les propos de Madame Daudet ? Est-ce que vous avez l'impression quand même que là, en l'espace de quelques semaines ou quelques mois, il y a réellement, statistiquement, une évolution de l'insécurité dans cette ville de Montpellier ?
Oui, bonjour. Alors bien évidemment, je confirme, je corrobore les propos de madame. Et quand on voit pédigrer le palmarès des actes de délinquance ou de nature criminelle sur les 15 derniers jours à Montpellier, si on se penche quelques instants dessus, cela peut faire froid dans le dos, puisqu'en 15 jours sur la commune de Montpellier, nous avons eu deux fusillades dans deux quartiers sensibles avec deux blessés. Nous avons eu un individu qui a été enlevé à bord d'une fourgonnette. Heureusement, des témoins ont relevé la plaque, les policiers sont intervenus. Je crois qu'on aurait eu un nouveau drame suite aux fusillades déjà constatées. Nous avons un jeune de 19 ans qui a été battu à mort à la place de Chine. Ce week-end, une septuagénaire de 72 ans poignardée à mort. Je ne vous cache pas que quand vous rajoutez à cela toutes les agressions gratuites ou crapuleuses sur le secteur de l'hypercentre et notamment de l'Écusson, il y a une dégradation quotidienne de la sécurité à la ville de Montpellier. Mes collègues le vivent tous les jours et je souligne effectivement qu'ils sont réactifs, qu'ils interviennent immédiatement, qu'ils interpellent bien souvent des auteurs, mais qu'effectivement, comme cela a été souligné, trop souvent, dès le lendemain, vous pouvez les recroiser sur la même place, devant le même commerce où ils étaient rentrés pour agresser ou voler la veille. C'est une évidence.
Alors, deux questions là, qui me viennent. La liste fait froid dans le dos, effectivement, comme vous nous l'avez cité, là, rien qu'en 15 jours. Mais déjà, vous l'expliquez comment, cette recrudescence de la violence? Et ensuite, pourquoi une telle impunité? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à punir les auteurs de certains faits ou méfaits? Ou même, vous avez cité, il y a des crimes hein, dans le lot, dans ce que vous nous avez cité quand même.
Écoutez, pourquoi on n'arrive pas à les punir? C'est une question, je dirais, qu'il faut vraisemblablement poser aux magistrats. Alors, je ne mettrai pas tous les magistrats sur le même plan. Il y a bien évidemment quelques idéologues qui pensent que la prison doit être l'exception, mais il y a aussi les magistrats qui souhaiteraient sanctionner. Mais malheureusement, il manque de places de prison. Il faut revenir aux fondamentaux. Si vous voulez sanctionner quelqu'un, il faut que cette sanction soit réelle, soit rapide. Vous ne pouvez pas interpeller un agresseur, le présenter à la justice, qui va lui dire vous 6 mois ou 1 an. Ensuite, 6 mois ou 1 an après, quand il se présente, s'il se présente, vous allez le condamner à 3 mois ou 6 mois de prison ferme. Très concrètement, 3 mois ou 6 mois de prison ferme, en France, vous ne les effectuez pas. Donc, comment se fait-il que la situation se dégrade à Montpellier comme ailleurs, et je dirais même en tout point du territoire? C'est que tant qu'il n'y aura des sanctions que de papier dans des délais astronomiques, je crois qu'on aura visité Mars de nouveau, que certains n'auront toujours pas goûté à la case de prison. Donc là, votre question, la réponse, elle est là. Il faut créer des places de prison, il faut pouvoir sanctionner. Une fois de plus, les fondamentaux de l'état de droit, d'une république, ce sont la sécurité, la santé et l'éducation, tout cela est lié. Hein, on le voit, des personnels soignants qui sont agressés, la violence, le trafic, le racket qui s'immiscent dans les établissements scolaires. Et évidemment, cette violence que vous avez dans la rue, et dont nous venons de narrer quelques exemples, sous 15 jours à Montpellier uniquement.
Oui, oui, c'est ce que je disais, la liste se fait peur. Et puis c'est ce que Odette Daudet nous disait également sur ce qu'elle ressent et ce qu'elle voit. Des questions au plateau de Thomas Carpellini, donc soit pour Odette Daudet ou David Leroux.
Oui, bonjour. Deux, d'ailleurs. Alors la question pourrait s'adresser pour les deux, mais notamment pour vous, Madame Daudet. Moi, je suis évidemment consterné d'entendre ce que vous dites, notamment car en 2022, il y avait eu toute une communication en fin d'année démontrant que la criminalité et la délinquance avaient baissé à Montpellier, notamment grâce à la mise en place de patrouilles mixtes, police municipale, police nationale. Or, on voit que quelques mois après, la délinquance remonte. Moi, la question que j'aimerais vous poser, madame, c'est ce que vous craignez, en avez-vous parlé avec vos confrères, vos collègues, que finalement, par acte de désespoir, certains commerçants puissent avoir l'idée de se faire justice eux-mêmes, comme on a vu il y a quelques jours à Grenoble. Vous savez, ce restaurateur qui, fatigué de voir des rodéos et s'est fait agresser par une moto, avait décidé de sanctionner avec tous les guillemets du monde l'agresseur. Est-ce que vous craignez cette situation? Est-ce que vous pensez qu'elle est possible?
Alors, non seulement je pense qu'elle est possible, mais il y a aussi quelque chose qu'il faut se mettre en tête, c'est que nous avons des gens qui viennent de l'extérieur, on va appeler ça des migrants, des gens qui viennent de pays très compliqués, de pays qui vivent dans la misère, qui ont été agressés, qui ont vécu des choses très graves eux-mêmes dans leur pays, ils sont venus, et pour eux c'est le paradis sur terre, tout est à leur portée. Ils ne sont pas punis alors que chez eux, ils ont des punitions. J'évoque même pas, vous savez, je me permets de dire que c'est le tiers-monde aujourd'hui, la France. Pourquoi? Parce que je suis née moi-même au Maroc et j'ai vécu le tiers-monde déjà. Et je suis revenue en France à l'âge de 18 ans. Je ne pensais jamais de ma vie vivre ce que je vis aujourd'hui en France. C'est-à-dire ce que j'ai vécu il y a quasiment 40 ans au Maroc. C'est inimaginable ce que l'on vit. Il faut aussi se mettre à la place, ils n'ont pas le même logiciel que nous. Ce sont des gens complètement différents, avec une éducation différente, avec des valeurs différentes. Et pour les intégrer, il faut s'en occuper, ou alors il ne faut pas les prendre. Il faut les laisser chez eux. Il y a deux poids et deux mesures. Il y a des gens qui arrivent, ils n'ont pas de papier, ils sont délinquants, ils vendent de la drogue, ils travaillent, ils font des livraisons. Et tout se passe comme si c'était normal, alors qu'on est en France, on n'est pas dans un pays du tiers-monde. Il faut qu'aujourd'hui, on trouve une solution par rapport à toutes ces problématiques.
Ah oui, le problème, c'est bien sûr de trouver la solution. Une question, Yvan Rio, de la part d'Yvan Rio.
Une question pour les deux. Alors, une première question peut-être pour madame. Est-ce que vous nous décrivez effectivement une délinquance que vous liez dans le fond à l'immigration, pour être clair? Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus dans cette nouvelle délinquance une sorte de mimétisme qui ferait que la délinquance maintenant devient plus générale et viendrait contaminer, si je puis dire, les comportements d'autres personnes. Et puis, mon autre question...
Attendez, on fera une question et puis ensuite, je vous donnerai la parole pour la deuxième. Mais oui, chaque chose en son temps. On est
toujours regroupé parce que j'ai toujours...
Je sais, mais non. Pas du tout, vous donnerez la parole. C'est promis. Et vous avez... Il y a beaucoup de témoins. Allez-y, madame.
Je vais répondre. C'est la peur qui fait le mimétisme. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur qu'en devenant eux-mêmes des petits dealers ou des petits voyous, ils pensent se protéger. Alors qu'au contraire, ils sont en train aussi de devenir des futurs délinquants ou des futurs drogués. Et c'est une société qui
bascule.
Je dirais même une fin de société si ça continue. Il faut impérativement que le gouvernement trouve des solutions pour qu'on puisse remonter la pente, parce que là, on est descendu bien bas.
Mais est-ce que c'est dans seulement certains quartiers de Montpellier? Ou est-ce que c'est, j'allais dire, toute la ville qui, comme ça, où il y a ce phénomène d'insécurité?
Oh, c'est un petit peu partout, même les quartiers bourgeois, il y a des attaques, il y a des... C'est partout. Les Cussons, comme il y a des commerces, il y a de l'animation, ça les attire la journée et des fois le soir quand il y a la restauration, etc. Mais c'est partout. J'ai des clientes qui sont dans des quartiers... Des très beaux quartiers qui sortent faire le marché et qui se retrouvent sans sac, sans clé, sans rien du tout, et surtout des personnes âgées. Hein.
Ouais. Yvan Riffol, je vous donne la parole pour votre deuxième question.
Pour le représentant de la police,
David Leroux.
Oui, voilà. Ce qu'il décrit, naturellement, peut être décliné sur toutes les autres villes de France, c'est-à-dire que ce laxisme de la justice, maintenant, est acté par tout le monde. Mais très concrètement, et du point de vue plus local, est-ce que vous-même, d'abord, vous faites le partage entre les deux causes que vous avez évoquées, une idéologie des juges et un manque de prison? Quelle est la part qui permettrait à la justice d'être plus laxiste? Et surtout, ce qui m'intéresse davantage, vous côtoyez les juges vous-même. Est-ce que vous les interpellez? Est-ce que les juges aujourd'hui sont interpellés publiquement? Est-ce que vous-même pointez dans le fond du doigt la responsabilité de certains juges militants ou la responsabilité de l'État qui n'arrive pas à construire des prisons? Enfin, est-ce que vous alertez en tout cas sur cette déficience sécuritaire?
Alors, Yvan Riffol, ça va vous faire plaisir. Non seulement vous avez pu poser votre deuxième question, mais vous allez pouvoir la reposer. Parce qu'on a eu un problème de connexion avec David Leroux. Et je ne sais pas s'il est de nouveau en ligne. On l'a rappelé, mais on a du mal à le joindre de nouveau. Non, ça semble être un petit peu compliqué de le joindre de nouveau. On va essayer de voir. Et dans ces cas-là, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez l'imposer. Mais n'y voyez aucun complot contre vous, évidemment.
Non, je ne suis pas complotiste.
D'accord, tant mieux. Alors, Odette Daudet, par rapport... vous étiez moins, mais par rapport à ces problèmes de justice, vous êtes d'accord avec ce que disait justement David Leroux avant qu'on ait ce problème de connexion, que finalement, la police, elle fait ce qu'elle peut. Alors, peut-être qu'ils ne sont pas assez suffisamment nombreux face à cette délinquance qui augmente, et lui-même le disait. Mais en tout cas, le problème, c'est un problème de justice plus que de police, pour vous aussi.
Mais c'est un problème de justice et un problème de moyens. Notamment, on ne peut pas accuser non plus les magistrats. Ils ne font pas ça pour se faire plaisir. Moi, j'ai des connaissances au niveau de la magistrature. Ils aimeraient bien que les choses se passent autrement, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens. Il faut que l'État puisse leur donner les moyens de faire leur travail correctement.
Ouais. Une question pour vous de Thomas Carpellini. On n'arrive toujours pas à joindre David Leroux, donc on essaye. Hein.
Oui, Madame Daudet, on sait à quel point il est compliqué de chiffrer la délinquance entre les agressions qui passent sous le tapis, le fait que tout le monde ne porte pas plainte. Or, il y a des chiffres qui ne mentent pas, ce sont les chiffres d'affaires des commerçants. Est-ce que vous, en tant que présidente de l'association, en parlant à vos collègues, à vos confrères, vous avez pu palper, entre guillemets, une baisse de chiffre d'affaires significative que vous pourrez, avec qui vous pourrez mettre en corrélation avec cette recrudescence de la délinquance?
Alors, pas tout à fait. Ce qui se passe, c'est que les personnes à haut pouvoir d'achat, les bourgeoises, on va dire, les bourgeois, ceux qui consomment du très haut de gamme, viennent de moins en moins. Et notamment, quand ils viennent, ils prennent des sacs de Carrefour ou autres et ils mettent leurs sacs dedans, ils ne mettent plus de bijoux, ils ne s'habillent plus.
Ah oui.
Et ils viennent pour passer inaperçus. Mais ce n'est pas une façon de faire du shopping si on a envie de se promener. Nous, ce qu'on désire fortement, c'est de retrouver notre liberté, de vivre normalement, de s'habiller normalement et de travailler normalement. On veut être sécurisé, on paye nos impôts, on veut être en sécurité. Sinon, on n'est pas obligé de vivre en France dans ces cas-là. On peut aller vivre dans d'autres pays où on sait qu'on sera en sécurité. On reste dans notre pays, on veut continuer à travailler, à être une plus-value, à rapporter des impôts, on paye, on veut être sécurisé, c'est tout ce qu'on demande.
Mais c'est intéressant ce que vous nous dites, madame, sur ces gens qui adaptent finalement des stratégies pour essayer de détourner l'attention avec des qui mettent leurs sacs dans d'autres sacs ou qui s'habillent un petit peu différemment. C'est Yvan.
Est-ce que vous pourriez dater peut-être ce basculement quasi civilisationnel que vous nous décrivez? Et est-ce que la municipalité, civilisationnelle, à partir du moment où les gens ont peur même de sortir et de s'afficher comme ils sont, ça devient un problème de civilisation, de mon point de vue? Et est-ce que la municipalité est naturellement sensible à ce que vous vivez, je l'imagine, mais est-ce qu'elle répond également d'une manière plus précise à ce problème sécuritaire?
Évidemment que la municipalité veut une ville apaisée, veut une ville sécurisée, mais quand... Comment vous pouvez... Enfin, je vais aller un peu loin. Nous sommes une ville d'étudiants. On a énormément de jeunesse. Donc, énormément de trafic de drogue, énormément... On a une mafia qui est assise. Hein, on est le petit Marseille. Qu'on le veuille ou pas, moi, je n'ai pas de langue de bois. Donc, si vous voulez, quand vous savez que le PIB de France... dans notre PIB, l'argent de la drogue compte beaucoup... Donc cette impunité, quelque part, n'est pas anodine. Il faut être clair. Hein. On accepte qu'il y ait Uber Sheet, Uber Coq, que le trafic de drogue se fait en pleine rue. Sans problème, c'est impuni. Donc forcément et fatalement, on ne va pas, nous, faire la guerre à la mafia.
Non, mais bah non, je vous le déconseille. Même.
Faites votre travail, mais laissez la population tranquille, comme dans des tas de pays d'ailleurs. Vous avez le Canada, c'est un pays où vous avez les trafiquants, la drogue, tout ce que vous voulez, la prostitution, mais c'est une société à part. La population est préservée.
Ma question n'était pas celle-ci, c'est de savoir si la police municipale pouvait être dissuasive, elle aussi, à côté de la police nationale.
Totalement, ils travaillent en communauté et on a un préfet qui est excellent. On a un très bon préfet, pour une fois, on a vraiment un préfet qui est là pour nous aider et pour nous sécuriser. Mais malheureusement, je vous dis, on ne peut pas...
Le phénomène est plus grand, en fait, ça dépasse même finalement peut-être Montpellier. C'est-à-dire qu'il faudrait agir à un haut niveau. En tout cas, merci Odette Daudet d'avoir témoigné. Hein. Et on n'a toujours pas réussi à joindre David Leroux, ce qui est bien dommage, parce qu'on avait d'autres questions à lui poser. On va changer de thème, leur fil. On va parler des homicides routiers, comme certains aimeraient qu'on les appelle. Finalement, il y a eu plusieurs cas ces derniers mois, ces dernières semaines, d'accidents parfois mortels qui ont été commis par des conducteurs qui étaient sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. La Première ministre, hier, Elisabeth Borne, a annoncé que les sanctions pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, notamment, pourraient être renforcées. Et puis, parallèlement, il y a une proposition de loi pour instaurer un délit d'homicide routier, car souvent, les conducteurs qui commettent des homicides, alors qu'ils sont sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool, sont poursuivis pour homicide involontaire. Et le terme est particulièrement choquant, notamment de la part pour les victimes. Nous sommes en ligne avec le député LR des Alpes-Maritimes qui a déposé ce texte. Monsieur Pauget, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Dans un instant, nous allons être en ligne avec Norbert Pierrot, qui est porte-parole de l'association Victimes et Citoyens. Il nous dira aussi ce qu'il en pense. Alors, on va regarder quelques chiffres, hein, d'ailleurs, sur la mortalité routière. Et donc, plus de 3500 personnes qui sont décédées sur les routes françaises, ça c'était l'an dernier. Et 867 personnes tuées dans un accident impliquant un conducteur sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants en 2021. C'est à peu près 30% donc dû à une prise excessive d'alcool et 12% à une prise de stupéfiants. Voilà, les chiffres sont posés, le contexte est posé. Une première question pour vous avant qu'on fasse une toute petite pause, Monsieur Pauget. Pourquoi vous avez eu l'idée de déposer cette proposition de loi? Qu'est-ce qui vous a motivé finalement?
Parce que malheureusement, moi je travaille sur ce sujet depuis un an. En juin 2022, j'ai un jeune homme de 16 ans qui était très implanté dans ma ville d'Antibes, sportif de haut niveau, qui venait d'intégrer l'équipe de France de tir, potentiel aux Jeux Olympiques. qui est décédé parce qu'un chauffard lui est rentré dedans au cours d'une soirée. Ce chauffard était sous alcool et sous drogue. Et à partir de là, vous imaginez bien le drame et l'onde de choc dans ma ville d'Antibes. Et depuis un an, donc, j'accompagne les parents pour d'abord faire un suivi, mais surtout pour qu'il ne soit pas mort pour rien. Ce jeune homme s'appelait Noé. Et vous l'avez dit dans votre présentation, aujourd'hui, un tel drame, c'est la qualification pénale, c'est homicide involontaire. Et lorsque la personne a bu de l'alcool, a pris de la drogue et qu'il rentre dans son véhicule, le véhicule devient une arme par destination, il tue. Mmh. Cette qualification d'homicide involontaire, c'est une double peine, voire un triple peine pour la famille et pour les victimes.
Ah oui, moi,
je me suis placé du côté des victimes parce que je pense qu'il faut rééquilibrer par rapport aux victimes. Et l'idée, c'est, je me mets dans mon rôle de législateur, l'idée, c'est de faire évoluer le droit, de faire évoluer le code pénal pour qu'on ait des sanctions qui correspondent à la réalité des drames que vivent ces victimes.
Voilà, et vous avez eu beaucoup d'écho, hein, d'ailleurs, sur cette proposition de loi. Hein. Ça fait de...
Non. Ouais. Alors, comme je dis, ça fait un an que je travaille dessus. C'est malheureusement l'actualité me conforte mon positionnement parce qu'il y a eu l'affaire Palmade, il y a eu ce drame avec ces trois policiers il y a une dizaine de jours, cette petite fille la semaine dernière. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un travail de fond. J'ai vu des avocats, j'ai vu des jurys, j'ai vu des magistrats, j'ai vu un universitaire. La Ligue contre la violence routière m'accompagne dans cette position de loi et défend l'idée de la création de cet homicide routier. Et l'idée, ce n'est pas d'en faire un sujet politique, c'est d'en faire un sujet consensuel et transpartisan.
Oui, c'est un sujet de société, ça dépasse même, oui, bien sûr, ça dépasse même les clivages politiques. On est sur un autre chose. Monsieur Pogé, vous restez, je vous interromps, mais vous restez juste en ligne avec nous et on reprend notre débat juste après quelques minutes de pause. Nous sommes aussi en ligne avec Norbert Pirot, qui est porte-parole de l'association Victimes et Citoyens. Je pensais que je pourrais le saluer et le voir, mais on le verra après la pub. On reprendra notre... Ah, voilà, bonjour Monsieur Pirot. À tout de suite, on se retrouve juste après quelques instants de pause pour reprendre notre débat. 14h30 tout pile sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. On commence par le Flash Info, Barbara Durand.
À Dreux, l'homme soupçonné d'avoir tué son ex-femme et leurs deux enfants va être présenté à un magistrat du parquet de Chartres. Selon le magistrat, une information judiciaire va être ouverte des chefs d'homicide volontaire aggravé de la femme et de ses deux enfants. Les trois corps sans vie avaient été retrouvés dans leur pavillon jeudi dernier. Dans la lutte contre la pollution plastique, à l'occasion de la reprise des négociations à Paris sur un futur traité mondial, Emmanuel Macron appelle à mettre fin à un modèle insoutenable. Si nous ne faisons rien, la génération de déchets plastiques triplera encore d'ici 2060. Voici ce qu'a déclaré le président. Et puis la guerre en Ukraine et une douzaine d'explosions entendues ce matin dans le centre de Kiev, peu après le déclenchement des sirènes aériennes. La défense est en action, a déclaré l'administration militaire de la capitale. Un site militaire dans l'ouest du pays a par ailleurs été touché par une frappe russe la nuit dernière.
La parole aux Français et n'hésitez pas, écrivez-nous hein, si vous souhaitez vous aussi nous confier votre témoignage ou des photos, des vidéos, témoins avec un s@cnews.fr. Je suis toujours en compagnie d'Yvan Rioufol et Thomas Scarpellini et également en compagnie d'Éric Poget, député LR des Alpes-Maritimes, qui a proposé donc ce délit d'homicide routier quand il y a des accidents qui sont commis sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, pour éviter la qualification d'homicide involontaire. Et puis nous sommes également en ligne avec Norbert Pirot, qui est porte-parole de l'association Victimes et Citoyens. Yvan Rioufol, je vous donne tout de suite la parole si vous voulez poser des questions à Éric Poget ou Norbert Pirot d'ailleurs.
Savoir, dans le fond, cette proposition que je comprends parfaitement, qui est parfaitement bien expliquée. En effet, quand quelqu'un qui est sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool excessif prend sa voiture comme il prendrait une arme, donc on peut très bien comprendre naturellement ce nouveau qualificatif. Mais je voulais savoir, mais ça s'apparente, si j'ai bien compris, à une circonstance aggravante. Je voulais savoir quelle était la mesure des peines qui pouvaient être aggravées en fonction de ce nouveau délit.
Alors on rentre dans un côté un petit peu plus juridique dans ces cas-là. Éric Poget, je vous laisse répondre.
Actuellement, la seule qualification prévue dans le code pénal, c'est l'homicide involontaire. C'est 5 ans maximum de peine. S'il y a des circonstances aggravantes, ça peut aller à 7 ans et à 10 ans. Mais ça reste la qualification d'homicide involontaire. Moi, ce que je propose en créant entre l'homicide involontaire et l'homicide volontaire une nouvelle disposition du code pénal, c'est de créer expressément l'homicide routier et avec deux catégories. L'homicide routier simple, s'il y a consommation d'alcool ou de drogue, qui démarrerait automatiquement à 10 ans de prison. Et l'homicide routier aggravé, s'il y a consommation d'alcool et de drogue, ce qui est malheureusement souvent le cas, avec à ce moment-là une criminalisation de la peine en démarrant automatiquement à 15 ans de peine maximale. Et comment j'y suis arrivé ? Parce qu'on m'a souvent opposé le fait que ce n'était pas possible. Je voudrais juste rappeler un petit point de droit. Il y a 2 ans en arrière, l'affaire Halimi. L'affaire Halimi, irresponsabilité pénale pour quelqu'un qui avait consommé des stupéfiants. Je suis parti, j'avais fait partie des quelques députés à l'époque qui avaient dénoncé cette situation. Et le droit a évolué depuis, puisqu'aujourd'hui, notre code pénal prévoit expressément l'intoxication volontaire. Je me suis appuyé sur cet élément de droit en disant, lorsqu'il y a intoxication volontaire et que derrière il y a un accident de la route qui cause un décès, à ce moment-là, on peut qualifier l'homicide routier avec le quantum de peine qui va avec.
D'accord, merci, c'est beaucoup plus clair. Hein. Norbert Piron, j'aimerais bien avoir votre point de vue quand même sur cette proposition de loi, sur le fait aussi qu'Elisabeth Borne a réagi hier en disant qu'elle souhaitait quand même que les sanctions pour conduite sous l'emprise de stupéfiants soient renforcées. J'imagine que vous y êtes favorable, forcément, et que les gens que vous représentez dans votre association le sont aussi. En quoi ça changerait vraiment les choses en tant que victime ?
Vaste question. Alors, ce qu'il faut essayer de comprendre, ce que j'essaye de dire déjà depuis quelques jours sur différents plateaux, c'est que aujourd'hui, on va avoir entre 9 et 10 morts sur les routes. Voilà, c'est un chiffre, le chiffre tombe, c'est celui-là. On est en 2023, on est au 21e siècle, que fait-on ? Est-ce que moi je pose une question ? Je pose une question toute bête. Hein. Je pose une question en étant porte-parole de l'association. On a à peu près 2-3 coups de téléphone par jour de victimes de la route, soit par malheureusement des gens dans leur entourage proche qui sont décédés ou des blessés, puisqu'on a quand même 70 000 blessés, ce qui a été mon cas. Je connais bien le dossier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que moi je pose une question toute bête. Est-ce que de prendre les gens, les mettre en prison ? Et de donc protéger la société pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce que et les faire ressortir, est-ce que la prison est un endroit où on ne consomme pas de drogue, est-ce que c'est un endroit où on soigne les gens qui sont malades? Parce que moi je n'arrête pas de dire que les gens qui sont alcooliques ou qui sont dépendants, comme un certain humoriste il y a quelques temps, ce sont des gens qui sont malades. Donc les mettre en prison, oui, répression, oui, d'accord, oui, oui. Mais est-ce que vraiment on va, et moi je pose une deuxième question, que fait-on de la surpopulation carcérale ? Moi je vais rester...
Ah, donc finalement vous n'êtes pas si favorable que ça à la création de ce délit.
Alors attention, on est favorable, mais il faut d'abord, avant de lancer des annonces comme ça, moi j'entends un petit peu tout, Monsieur Darmanin, notre Première Ministre, on va faire ça, etc. Déjà, voilà, avec le monsieur député là qui est déjà, essayons de nous rencontrer, essayons de discuter. Il a certainement de très bonnes choses, moi aussi et le gouvernement aussi. Moi je suis dans les écoles, je suis dans les lycées. On est victimes et citoyens, on est sur le terrain, on sait faire remonter les informations. On a un petit peu tout, on a des choses qui partent un peu dans tous les sens. Recadrons, je pense qu'il faut recadrer. Enrichissons-nous de nos différences, on a plein de choses et je suis sûr qu'on trouvera, des moyens. Et moi, l'alcool, l'alcoolisme, les prises de stupéfiants, c'est une maladie.
Excusez-moi, je vous interromps, mais et en plus, alors moi, je suis très favorable au dialogue et d'ailleurs, je pense que le député Éric Poget vous entend et que s'il y a moyen de vous mettre en contact, on le fera, hein, y a, sans aucun problème. Au contraire, je pense que ça peut être enrichissant pour vous deux. Mais Norbert Piron, vous savez bien que malheureusement, hélas, il y a aussi dans les accidents qui sont causés, il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément totalement sous l'emprise, on va dire, qui ne sont pas accros ni aux stupéfiants ni à l'alcool, qui ont bu peut-être 3-4 verres, 5 verres ou je passe combien, et qui se sont décidés, oh, bah, si c'est bon, je peux conduire, j'y vais, et il y a un accident. Vous savez que parfois c'est ça, juste.
Mais bien sûr, vous savez, dans les entreprises, puisqu'on fait des entreprises, d'ailleurs, le discours, notre langage, notre discours victime de la route, quand on arrive comme ça dans les lycées ou dans les entreprises, Le discours passe très très bien auprès des jeunes, beaucoup moins bien auprès des personnes un peu plus âgées. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a 10 ans, 15 ans de permis de conduire, « Ah mais moi, non, ça, non, moi ça ne m'arrivera pas, etc. » Ça arrive aux autres. Les jeunes sont à l'écoute. Alors bien entendu, il ne faut pas se leurrer aussi. Il y a des gens qui prennent des produits stupéfiants, qui ne sont pas des criminels. Et je pense qu'il faut, moi je crois réellement à la conscience des gens. Et je peux vous dire une chose, c'est que le message de la prévention fonctionne très 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 bien auprès des jeunes. Il faut aujourd'hui, nous, victimes de la route, pourquoi on n'est pas présent dans les stages de récupération de points ? Pourquoi ? Pourquoi ne pas, quelqu'un qui a eu un problème avec des produits stupéfiants ou de l'alcool, qui soit suivi automatiquement par un addictologue et peut-être un bracelet, qu'on puisse le suivre réellement et
oui,
le soigner de cette maladie.
Propositions.
Le mettre en prison, franchement, le mettre en prison, ça va servir. Oui, la société va être protégée pendant un an, deux ans. Oui, effectivement. Et en plus, il va encore consommer des produits stupéfiants puisque en prison, on a quand même un libre service et la surpopulation carcérale. Moi, je pose simplement quelques questions.
Non, mais vous avez raison, et ça soulève une autre part du problème, d'ailleurs, qui est vaste, qui est un problème de société,
juste,
comme on le disait avec le député.
Terminer, juste pour terminer, on va dans des centres d'adolescents, des centres fermés d'adolescents qui sont sur des peines, voilà. Et on en a vu avec, je pense à Mounir, qui est en fauteuil. Eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que quand on vient témoigner, on vient leur dire un accident, c'est ça, 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 les causes, on est sur les lits d'hôpital, voilà ce qui se passe. Eh bien, je peux vous dire que le message passe.
Ça, je veux bien le croire, que le témoignage d'une victime soit suffisamment frappant pour que le message passe. Une question pour vous, pour vous ou pour Éric Pogé d'ailleurs, de Thomas Scarpellini.
Pour monsieur le député, moi j'aurais juste une toute petite remarque. Évidemment que la prise de drogue est une maladie, mais jamais, à aucun moment, une personne, on l'a contraint à prendre un rail de coke ou à boire un verre de trop. C'est un comportement délibéré. Donc j'entends que c'est une maladie, j'entends que ces personnes doivent être suivies. Mais alors, il faut aller jusqu'au bout. Si c'est une maladie, on les met sous tutelle, sous curatelle, et on leur retire le droit de vote. On retire tout. Non, à un moment, l'individu est responsable. À partir du moment où il décide lui-même d'altérer sa psyché par la prise de substances, il doit en assumer. Et la question que j'aimerais poser à monsieur le député, est-ce que finalement...
Oui, vous allez dans le sens de Norbert Perron.
Moi, j'ai évidemment dans ce sens-là. Moi, la question que j'aimerais vous poser, monsieur le député, c'est est-ce que vous avez le soutien des gens ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé ex nihilo ou au contraire, ça a été une demande ? Est-ce que vous sentez que vous êtes soutenu derrière vous ?
Alors, ça va. En fait, votre question va en prolongement du témoignage et de ce qu'a dit Norbert Pirot. Donc, je vous laisse réagir, monsieur Pogé.
Ce qui est vraiment intéressant dans ce projet que je défends, que je vous ai entièrement raison, c'est qu'on se place enfin du point de vue des victimes. On arrête de protéger l'agresseur et on décide de permettre à la victime de mettre des mots sur ses mots.
Éric Pogé.
Moi, je me répète, ça fait un an que je travaille sur le sujet suite à un drame qui a eu lieu dans ma commune d'Antibes et je travaille avec la famille du jeune Noé. J'ai vu depuis l'association du chef Aleno à plusieurs reprises.
Qui a travaillé d'ailleurs là-dessus, qui a chargé des éminents juristes, j'allais dire, et pénalistes de plancher sur l'introduction dans le code pénal d'un tel délit.
Je travaille en lien direct avec la Ligue contre la violence routière. J'ai rencontré l'association de Maud Escriva en région parisienne. Depuis un an, j'ai vu énormément de victimes et je vous rejoins les uns les autres en disant qu'on doit rééquilibrer le curseur de notre droit vers les victimes. Tout est fait pour le justiciable, ce qui est une bonne chose. On est un état de droit abouti, avancé, mais on doit rééquilibrer dans notre droit le problème des victimes. Oui. Moi, les parents du jeune Noé, ils me rappellent, et je les ai encore vus il y a quelques jours, qu'eux, ils ont pris perpétuité et personne ne les a défendus, ne leur a demandé quoi que ce soit.
Oui, c'est un problème de balance pour vous, finalement. Mais peut-être que, et pour relayer ce que disent à la fois Thomas Scarpellini et Norbert Pirot, peut-être que la balance, là, peut-être va trop loin, en fait. C'est ça, si je me fais. Ou alors qu'elle...
Je trouve au contraire qu'il est temps d'aller trop loin. Il faut protéger les victimes et arrêter avec les délinquants.
Yvan Rioufol ?
Non, je suis simplement surpris par cette révélation qui a été faite, que vous ne soyez pas rencontré vous-même et le représentant des victimes. Je pense que ça passe par... D'ailleurs, c'est un biais dans le fond de notre démocratie d'aujourd'hui de penser que les uns et les autres ont des vérités révélées. Peut-être y a-t-il une synthèse à faire entre, d'une part, en effet, des peines qui pourraient être dissuasives. En effet, ce qui a été appelé à une prévention pour un certain nombre de jeunes qui consomment de la drogue, et puis également à ces obligations de soins qui pourraient en effet pallier également l'absence d'efficacité des peines de prison. Je pense que tout ceci pourrait former un tout plutôt que d'avoir à segmenter. Donc, je n'ai pas de question particulière.
Vous encouragez au dialogue.
Sinon, de vous encourager au dialogue, oui.
Éric Poget et Norbert Perrault, si vous voulez qu'on vous mette en relation, il n'y a aucun souci, aucun problème. On va essayer de faire ça, que vous puissiez dialoguer, justement, échanger sur votre point de vue et vos points de vue à tous les deux. On promis hors antenne, si vous voulez, qu'il y ait un échange de numéros pour que vous puissiez vous rencontrer. Ce sera fait. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir donné votre avis sur ce phénomène de société et sur donc ce nouveau délit que vous avez proposé, Monsieur Poget, ce délit d'homicide routier. On en parle beaucoup. Oui, Monsieur Poget, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Effectivement, l'actualité a été marquante. Monsieur Poget, dernier mot, oui?
Oui, non, je disais que c'est pas le but, c'est que ça ne reste pas qu'un délit. C'est de créer réellement l'homicide routier qui viendrait entre l'homicide involontaire et volontaire. Et pour rassurer, donc là, il y a une myriade d'associations de victimes. J'en ai rencontré beaucoup et j'échange totalement. La proposition de loi que j'ai déposée crée bien sûr l'homicide routier, mais il y a une dizaine d'autres mesures qui vont dans le sens de ce que j'ai entendu.
Oui, merci de m'avoir repris. Vous avez raison.
Notamment le fait de former les détenus pour homicide routier à l'addictologie et à la violence routière, entre autres.
Oui, mais vous avez raison. Pardon, j'ai mélangé un peu les deux. Mais homicide, les propositions de loi sur l'homicide, la création d'un homicide en routier. Merci encore à tous les deux. Et on vous met en contact si vous le souhaitez, bien sûr. On va changer totalement de sujet. Vous savez que c'est le lundi de Pentecôte, un lundi férié. D'ailleurs, peut-être que vous êtes en train d'en profiter pour nous regarder. Et c'est tant mieux, je m'en félicite. C'est aussi le week-end du pèlerinage de Chartres. Et alors, cette année, il bat tous les records. 16 000 personnes qui ont marché jusqu'à Chartres ce week-end. À l'occasion, donc, je vous rappelle que c'est un pèlerinage catholique qui est organisé tous les ans, que la messe de clôture de ce pèlerinage a lieu d'ici là, un quart d'heure d'ailleurs, dans la cathédrale. L'association qui organise ce pèlerinage a dû fermer les inscriptions en avance tellement il y a eu de monde. En plus, le soleil a été de la partie. Nous sommes en ligne avec Thomas, qui est un pèlerin Notre-Dame de la Chrétienté. Bonjour Thomas, vous avez 24 ans. Promis, on vous libère avant la messe de fin. Et surtout, vous êtes récemment converti. Merci, pour expliquez-nous pourquoi c'était important pour vous d'effectuer ce pèlerinage.
Alors, je m'intéresse à la tradition depuis quelques années maintenant, donc à la suite de ma conversion. Et donc dans la continuité donc de mes pratiques spirituelles, j'ai voulu aller plus loin. Des amis m'ont proposé donc de réaliser avec eux donc ce pèlerinage. J'ai accepté et donc j'ai fait mon premier pèlerinage cette année pour je dirais premièrement donc pour renforcer ma spiritualité, pour me mettre aussi un défi, une épreuve physique et un bon challenge.
Ça semble être réussi. En tout cas, il y a du monde derrière vous. Hein. Thomas Scarpellini, une question pour Thomas.
Oui, bonjour Thomas. Alors déjà, j'adore votre prénom. Aujourd'hui, l'Église catholique a cette image d'être un petit peu vieillissante. Or, vous êtes jeune, vous êtes un catéchumène, vous avez fait votre conversion au catholicisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vu dans ce pèlerinage de Chartres beaucoup de jeunesse, beaucoup de personnes de nos âges, de moins de 30 ans, pas que des familles.
Nos âges, vous allez dire, Yvan et Ophélie à moi, c'est ça?
La vingtaine.
C'est ça.
Vous êtes jeune.
Alors la grande majorité justement à la vingtaine, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que la moyenne d'âge tourne autour des 22-23 ans ou 21 ans. Donc en effet c'est vraiment une grande majorité de jeunes, accompagnés évidemment de personnes un petit peu plus âgées. Mais vraiment l'église traditionnelle pour le coup compte une grande communauté assez jeune et vivante.
Et Marie-Paul, le jeune du plateau.
Quand vous parlez d'église traditionnelle, vous parlez peut-être aussi d'église traditionnaliste. Et il me semble que ce n'est pas exactement ce que veut le pape François de cette église traditionnaliste, qui la trouve aujourd'hui un peu surannée. Est-ce que vous reconnaissez dans les mots d'ordre du pape de dire qu'il faudrait passer à autre chose? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous raccrochez à ce qui semble être, de mon point de vue, le plus attractif, c'est-à-dire le retour à des messes avec des liturgies, des messes en latin? Est-ce que vous vivez là, d'ailleurs, très précisément?
Est-ce que vous n'êtes pas contre?
Oui, totalement. Je m'y rattache pleinement, et c'est ce qui m'invite à aller davantage justement dans ma foi et vers le Seigneur.
Alors, attendez. Je crois qu'on n'a pas tellement compris votre réponse. Est-ce que vous êtes à contre-courant du pape, ou au contraire, est-ce que vous allez dans la démarche du pape et dans sa doctrine?
Ah non, je suis à contre-courant. L'idée, justement, mon idée de rester vraiment dans la tradition et de m'y rattacher davantage, de plus en plus.
D'accord, beaucoup plus que ce que donnent les nouvelles doctrines de la foi, hein, peut-être. Oui, Thomas Scarpellini. Battez-vous. Non, Thomas, deux dernières questions.
Oui, moi j'aurais une question. Finalement, la religion catholique, bien qu'elle ait été pendant des années majoritaire en France, est tombée un petit peu, non pas dans l'oubli, mais dans une plus grande discrétion. Est-ce que aujourd'hui, pour vous, c'est une fierté, une partie intégrante de votre identité, que de vous revendiquer catholique? Et si oui, est-ce que vous le faites de manière assumée, sans aucun problème, ou au contraire, des fois, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer aux uns, aux autres?
Alors je pourrais répondre à la question pour vous dire que bon, j'ai une chemise, mais que j'ai un Christ crucifié de tatoué sur le bras, une Sainte Vierge également. Donc non, pour moi j'en suis pleinement fier et je n'ai aucun problème à le revendiquer, au contraire. Et je pense que c'est également un devoir finalement d'inviter les autres à la discussion et à échanger sur ce sujet.
Une dernière question d'Yvan Rioufol.
Est-ce que vous avez le sentiment, vous et tous ceux qui vous accompagnent, cette jeune génération qui a 20 ans, de participer à un réveil, à une résistance? Est-ce que vous pensez être parmi les signaux faibles d'une sorte de renaissance? On parle beaucoup de décadence d'une civilisation. Est-ce que, à travers vous, vous voyez au contraire le renouveau de ce que pourrait être une spiritualité, et singulièrement une spiritualité française?
Ah, totalement, pleinement. Là, on est vraiment en plein dedans. Pour moi, on est vraiment dans le vrai. Et il y a qu'à voir en fait toutes les personnes qui sont autour de moi. La devise sur les t-shirts justement de Notre-Dame de Chrétienté, gardien de la tradition. On est vraiment dedans, ouais, totalement.
Bien, merci beaucoup Thomas pour votre témoignage. On vous laisse aller suivre la messe de clôture. Un grand merci à Charles Baget pour la réalisation de ce duplex. On continue à parler de la religion catholique. On va partir en Corse cette fois-ci. Nous sommes en ligne avec Nicolas Battini, qui est président de l'association U Palatino, qui est une association de défense de l'identité historique et culturelle de la Corse. Bonjour monsieur, merci d'être en ligne avec nous. On va parler de ce qui est arrivé à la statue de Notre-Dame de Lavasina. Alors Lavasina, c'est à côté d'Ajaccio, pour faire simple. On va voir les photos, c'est indigne forcément, elle a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux cette photo. Vous voyez cette statue de la Vierge et de l'enfant qui a été décapitée. Racontez-nous cette découverte, racontez-nous où était cette statue et ce qui s'est passé.
Eh bien, vous savez, c'est un énième fait divers, une énième péripétie ô combien grave pour ce qu'elle impacte en termes de psychologie dans la société insulaire, qui est très attachée évidemment à l'imaginaire, pas seulement à la pratique catholique, mais également à l'imaginaire et au socle civilisationnel qui est bâti sur le catholicisme. Finalement, cette dégradation s'inscrit dans une longue série d'autres dégradations qui a introduit en Corse depuis quelques semaines un climat nouveau et je dirais tout à fait inédit. Alors, vous savez, nous soulevons souvent en Corse la question démographique pour expliquer les phénomènes nouveaux. En l'occurrence, je pense que nous n'évoquons que trop peu l'action idéologique qui émane, somme toute, d'une gauche woke et parisienne qui travaille le terrain corse depuis maintenant plusieurs années, au sein même d'ailleurs de l'autonomisme au pouvoir, et qui provoque, somme toute, un certain nombre de ruptures.
Mais vous semblez pointer du doigt certaines personnes, mais est-ce qu'on a alors vous disiez, c'est pas le premier acte de vandalisme de la sorte, hein. Je crois qu'il y a eu d'autres, effectivement, des hôtels qui ont été vandalisés également, ou d'autres symboles religieux. Mais est-ce que des enquêtes sont menées? Est-ce qu'on a réussi à chaque fois peut-être à trouver un coupable? Est-ce que ça avance du côté de l'enquête?
Alors écoutez, ce sont des informations évidemment qu'il faudrait demander aux services compétents. Et évidemment, je n'en fais pas partie. Vous avez raison de soulever le fait qu'il s'agit d'être prudent quant aux auteurs de ces faits. Évidemment, c'est une interprétation et une analyse qui est la mienne et qui est la nôtre, qui est celle aussi d'un certain nombre de Corses qui ressentent la pénétration d'un certain nombre de discours dans la société corse depuis peu, qui auparavant n'avaient aucune sorte d'existence et qui évidemment contribue à un certain climat et peut-être, à certains égards, à une justification des faits que nous évoquons.
Une question, deux questions même.
Oui,
Yvan
vous évoquez de ces phénomènes qui seraient apparus il y a quelques semaines, pour reprendre votre expression. Et donc, vous semblez cibler, si j'ai bien compris, le milieu universitaire, parce que l'idéologie woke est surtout transmise aujourd'hui par les universités et peut-être même par l'université de Corté, je crois que c'est chez vous, c'est Corté. Alors, est-ce qu'on peut aller jusque-là dans vos accusations sous-tendues, ou est-ce que, en fait, c'est une interprétation qui en vaudrait une autre?
Non, pour vous répondre très clairement, nous ne ciblons absolument pas le milieu universitaire, qui, vous savez, nous sommes en Corse. Et si il y a en effet une surreprésentation de l'idéologie woke dans la plupart des campus universitaires, la Corse a une spécificité, encore une fois, en la matière, qui est due finalement à un prisme plutôt conservateur et traditionnel qui se retrouve même dans des corporations qui, habituellement sur le continent, sont largement acquises à l'idéologie woke ou à l'idéologie d'extrême gauche. Ce n'est pas le cas en Corse. Non, c'est beaucoup plus complexe que cela, mais vous savez, la Corse n'évolue pas en vase clos, évidemment. Elle s'intègre dans un espace politique, qui est l'espace politique français, occidental, européen, évidemment, son débat public qui anime sa vie politique ne fait pas l'économie d'un certain nombre de propos wokisants, bien qu'ils soient en effet très marginaux en Corse. Mais vous savez, je pense précisément que c'est la marginalité du discours woke et antichrétien en Corse qui pousse un certain nombre des éléments qui appartiennent à cette école de pensée de décliner leurs propositions politiques de façon tout à fait violente et indigne comme celle que nous évoquons. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de cibler des personnes en particulier, parce que comme vous l'avez rappelé, il y a très certainement des enquêtes en cours. Mais il est vrai que nous ne pouvons pas faire l'économie de la dénonciation d'un climat qui encore est en train de s'installer, y compris d'un point de vue intellectuel et idéologique.
Une dernière question de Thomas Carpellini pour vous, monsieur.
Oui, bonjour, monsieur Bettini. Vous avez entièrement raison de rappeler que si la France est la mère de la philosophie des Lumières émancipatrices, c'est également la fille aînée de l'Église. Et finalement, est-ce que vous regrettez le fait que les élus, les pouvoirs publics, ne se mobilisent pas à la mesure du blasphème que les catholiques, non pas les Français, mais les catholiques peuvent ressentir en voyant une vierge décapitée? Est-ce que finalement, par cet abandon, mais ce silence de certains pouvoirs publics, vous avez l'impression, pour vous, catholiques corse-français, d'être frustré dans votre identité?
Vous savez, au-delà de la question culturelle, il s'agit surtout, je pense, d'évoquer la question culturelle. Il y a en effet, vous avez raison de le rappeler, que la principale communauté qui est ciblée, impactée par ce genre d'actes indignes est évidemment la communauté catholique. Mais au-delà de ça, le catholicisme appartient à une somme de repères, à un socle culturel qui est commun d'ailleurs à la Corse, à la France, à l'Italie, à l'Espagne, à beaucoup de pays occidentaux. Et je suis en effet tout à fait disposé à déplorer le manque de réaction des autorités publiques, en particulier des autorités politiques, encore que la Corse, encore une fois, de par son imprégnation catholique extrêmement, extrêmement profonde et importante, toujours aujourd'hui, en cette ère de sécularisation qui n'a pas tout à fait atteint la Corse, il est vrai que nous avons la chance d'avoir une partie de notre classe politique qui réagit très vivement à ce genre d'action. Notamment une partie du nationalisme et de la droite insulaire. Encore que des débats en interne sont à mener, nous avons parlé précédemment des agissements et de l'actif travail qu'opère un certain nombre d'éléments très wokisants, y compris dans l'autonomisme corse. Et ma foi, c'est à la lumière de ce genre d'événements tout à fait déplorables qu'il s'agira de mener ce genre de débat.
Merci beaucoup Nicolas Bettini d'avoir réagi et témoigné sur notre antenne à propos de ce qui circule, donc de cette image qui circule sur les réseaux sociaux et que vous avez pu découvrir en Corse. La fin de cette émission, merci à tous les deux. Merci. On se retrouve dans quelques instants à peine pour le grand journal de l'après-midi sur CNews. Il est 15h, bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure du grand journal de l'après-midi sur CNews. Bonjour Michael Dorian, cet après-midi en ce lundi de Pentecôte.
Et bonjour à tous, à la une de l'actualité, 8 femmes sur 10 ont peur de rentrer seules chez elles le soir. C'est le triste constat du Haut Conseil à l'égalité. Face à ça, Gérald Darmanin a annoncé le lancement d'une campagne de prévention. 5 millions de flyers seront distribués partout en France pour lutter contre l'insécurité des femmes.
Plusieurs médecins s'en prennent au professeur Didier Raoult. Il lui reproche d'avoir mené un essai thérapeutique sauvage sur 30 000 patients pour tester l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Les détails dans un instant.
À Ajaccio, la statue de Notre-Dame de Lavazina a été décapitée. Un énième acte de vandalisme perpétré sur des symboles chrétiens en Corse qui a provoqué l'indignation des habitants. Les précisions à suivre avec notre journaliste en Corse, Christina Luzzi.
Plusieurs explosions ont été entendues ce matin dans le centre de Kiev. Elles interviennent après une nouvelle nuit de frappes de drones explosifs et de missiles sur la capitale ukrainienne.
Gérald Darmanin lance donc une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Le ministre de l'Intérieur l'avait annoncé sur ses réseaux sociaux. Des flyers seront distribués pour rappeler à chacune et chacun les gestes à avoir lorsqu'on est témoin ou victime d'une agression. Les explications d'Adrien Spiteri.
Ce flyer sera distribué à partir de demain et tout au long de l'été par les policiers et gendarmes. 5 millions de tracts pour lancer une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Composé d'un QR code, le flyer redirige vers le site du ministère de l'Intérieur, massécurité.fr. Il permet de signaler des faits et discuter avec les forces de l'ordre 24 heures sur 24. Il explique également les démarches à suivre si l'on est victime ou témoin d'une agression. Les réactions à cette campagne sont mitigées. Certaines femmes estiment ne pas être suffisamment entendues.
Mais c'est bien que le gouvernement s'y penche maintenant, mais c'est un peu tardif. Et moi, je crois que les tracts ne feront rien. Qu'ils communiquent, qu'ils fassent des pubs voilà, en masse pour que chacun, que ça touche chacun d'entre nous, en fait.
Moi, je me sens très bien quand je voyais dans la police ou une sécurité ou quelqu'un qui... Je me sens beaucoup mieux.
Il faut aussi surtout éduquer c'est malheureusement souvent les hommes quand même qui agressent les femmes. Il faut aussi éduquer les jeunes, il faut que tout le monde puisse se mobiliser.
En 2020, 220 000 personnes ont été enregistrées comme victimes d'infractions sexistes. Selon le Haut Commissariat à l'égalité, 86% sont des femmes, 16% d'entre elles sont mineures.
Et le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes pointe la banalisation persistante du sexisme dans son rapport 2023. Il précise que 40% des hommes déclarent normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants.
Dans le reste de l'actualité, l'inquiétude à Montpellier. Depuis près de deux mois, des commerçants et des piétons sont victimes d'agressions à répétition en plein cœur de ville, dans le quartier de l'Écusson. Problème avec l'arrivée de l'été, ils craignent que ces actes malveillants se multiplient. Reportage Célia Barotte.
Dans le centre-ville de Montpellier, les commerçants s'inquiètent pour leur sécurité. Ils sont victimes d'intrusions, de vols et d'agressions. Dernier fait en date, une esthéticienne et son employé ont été roués de coups. Ces violences seraient perpétrées par des groupes connus des commerçants.
C'est les mineurs isolés. Eux, ils sont totalement impunis. C'est des personnes qui sont là pour... C'est des réseaux de vols. C'est des réseaux de vol, on les connaît, tout le monde les connaît, tout le monde sait qui c'est. Ils ont toujours la même façon de pratiquer leur... Ils rentrent dans des magasins, ils se servent et ils s'en vont. Et vous ne pouvez rien dire.
Avec l'augmentation de l'insécurité dans le quartier de l'Écusson, les commerçants se sont munis de sonnettes pour contrôler les entrées de leur établissement. Ils possèdent également une ligne directe par mail et téléphone avec la police. Mais un problème persiste, l'impunité des agresseurs.
Lorsqu'à l'issue d'une garde à vue de 24 heures, l'auteur d'agression est relâché immédiatement avec une confiscation judiciaire dont il n'honorera pas sa présence 6 mois ou 1 an après, on ne peut pas banaliser des actes au quotidien, surtout avec cette période estivale qui va amener beaucoup de monde à Montpellier.
Pour sauver le centre-ville de Montpellier, certains commerçants réclament la mise en œuvre rapide d'un groupe local de traitement de la délinquance.
Didier Raoult a-t-il mené un essai thérapeutique sauvage sur 30 000 patients pour tester l'efficacité de l'hydroxychloroquine? Des médecins demandent aujourd'hui des sanctions. Régine Delfaux.
Didier Raoult se serait-il livré au plus grand essai thérapeutique sauvage pour 16 sociétés savantes de médecine? La réponse est oui. Dans une tribune publiée sur le site du Monde, elle dénonce la prescription systématique aux patients de la Covid-19, quel que soit leur âge, d'hydroxychloroquine, de zinc, d'ivermectine ou d'azithromycine par l'IHU de Marseille sur des ordonnances pré-remplies.
Ces prescriptions systématiques ont été poursuivies, ce qui est plus grave, pendant plus d'un an après la démonstration formelle de leur inefficacité.
Ces signataires pointent du doigt la collecte de santé de plus de 30 000 patients en dehors de tout cadre éthique ou juridique, mais surtout des prescriptions en dehors de toute autorisation de mise sur le marché.
En l'absence de mesures appropriées, ce qui s'est pratiqué restera ainsi perçu par un grand nombre de nos concitoyens comme un comportement finalement acceptable, voire souhaitable.
En avril dernier, l'Agence du médicament a estimé que l'utilisation de l'hydroxychloroquine expose les patients à de potentiels effets indésirables qui peuvent être graves.
5000 patients appelés à se faire dépister du VIH, de l'hépatite B et de l'hépatite C à Lyon. Ils ont potentiellement été exposés à un risque infectieux pendant leur passage dans un centre dentaire entre mai et décembre 2022. Le cabinet ne respectait pas les règles de stérilisation du matériel. Ils ont tous été contacté par mail au début du mois.
Une statuette religieuse vandalisée à Ajaccio, c'est la statue de Notre-Dame de Lavasina qui a été installée sur le front de mer d'Ajaccio. Elle a été décapitée. Un énième acte de vandalisme perpétré sur des symboles chrétiens en Corse qui a provoqué l'indignation des habitants. Les précisions sur place de notre journaliste Christina Luzzi.
Une statuette de Notre-Dame de Lavasina installée sur le front de mer d'Ajaccio en Corse du Sud a été décapitée en ce week-end de Pentecôte. Une information révélée et surtout relayée par les réseaux sociaux où les internautes n'ont pas hésité à faire part de leur indignation et de leur colère. D'autant que cet acte s'inscrit dans une longue litanie de vandalisme perpétré sur des symboles chrétiens en seulement quelques mois en Corse. Camp de scouts saccagé sur la commune de Véro en Corse du Sud. Statuette de la Vierge vandalisée près de la plage du Petit Capot à Ajaccio ou encore croix décapitée au col Saint-Jean à Cisco en Haute-Corse, pour n'en citer que quelques-uns, sans compter des faits quotidiens qui ne font pas forcément l'objet d'un dépôt de plainte et qui sont donc passés plus ou moins sous silence. Une situation préoccupante qui suscite de vives réactions au sein de la société insulaire, très attachée à ses valeurs chrétiennes et à ses figures sacrées.
Alors pour lutter contre la multiplication des actes antichrétiens, le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudulier, souhaite que les racines chrétiennes de la France soient inscrites dans la Constitution. Il a déposé une proposition de loi en ce sens au Sénat. Invité de CNews ce matin, il dénonce, je cite, « des coups de boutoir donnés à notre civilisation ». Il ajoute que certains veulent devenir les Robespierre du XXIe siècle et veulent enlever ses marqueurs culturels et ses traditions immémoriales de notre histoire.
Affluence record pour le pèlerinage de Chartres en ce week-end de Pentecôte. 16 000 personnes y participent cette année et ils ont choisi de manifester leur foi en marchant. Donc trois jours pour se rapprocher de Dieu, disent-ils. Un tel succès que l'association organisatrice de ce pèlerinage a été contrainte pour la première fois en 40 ans de clôturer prématurément les inscriptions le 19 mai dernier.
L'actualité internationale à présent, plusieurs explosions entendues ce matin dans le centre de Kiev. Elles interviennent après une nouvelle nuit de frappes, de drones explosifs et de missiles. On en parle avec Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Harold, pourquoi ces subites attaques massives sur la capitale ukrainienne?
Il s'agit d'une offensive aérienne russe avec des missiles Kranjil, des Iskander qui sont moins puissants, des armes redoutables fabriquées en Russie ou en Iran. Sans oublier les drones kamikazes de la technologie médiocre mais très efficace. En face, l'armée ukrainienne dispose des meilleurs missiles antimissiles au monde, les célèbres Patriot de fabrication américaine et d'autres encore. C'est grâce à cela et à l'intervention d'avions russes ukrainiens dans le ciel qu'après 15 jours de salves massives et nocturnes, les Ukrainiens ont échappé à un carnage. Ces tirs russes sont une riposte grossière aux tirs des forces ukrainiennes sur des cibles militaires russes à l'intérieur de la Crimée et du territoire russe proprement dit, à Belgorod par exemple. C'est également une riposte aux intrusions multiples de partisans russes anti-Poutine qui ont attaqué sur le territoire russe, encore une fois autour de la ville de Belgorod. De son côté, le commandement russe dit avoir frappé et détruit des aérodromes ukrainiens. Au final, nul ne sait quand ni où se tiendra la grande contre-offensive terrestre ukrainienne.
Merci beaucoup, Harold. L'euphorie en Turquie, Recep Tayyip Erdogan a été réélu pour 5 ans à l'issue d'un second tour inédit. Déjà au pouvoir depuis 20 ans, le président sortant a obtenu 52,16% des suffrages. Sa réélection suscite donc le désarroi de toute une partie de la population. Comment compte-t-il gouverner? Notre correspondante sur place à Ankara, Shona Batacharia.
De nombreux défis attendent le président Recep Tayyip Erdogan, à commencer par l'économie. Le président va certainement poursuivre sa politique monétaire non orthodoxe qui a vu la lire chuter à son plus bas niveau historique face au dollar la semaine dernière. Il y a ici une crise du logement, une crise de l'emploi et la Turquie va très certainement devoir emprunter de l'argent à l'extérieur, à ses voisins arabes ou encore au FMI. Le président a également promis de changer la constitution, de continuer dans sa défense des valeurs traditionnelles et familiales avec des politiques anti-LGBT, anti-droits des femmes. Il va poursuivre sa quête de l'interdiction du principal parti pro-kurde. Et puis enfin, comme il est en position de force à la maison, il va continuer son tour de défiance à l'extérieur, en particulier à l'égard de l'Union européenne et de l'OTAN, en même temps de poursuivre ses bonnes relations avec la Russie et les pays arabes.
La Chine inonde le marché de l'automobile électrique. On en parle tout de suite dans la chronique éco avec Eric de Rydmaten.
Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
Eric, les derniers chiffres de vente sur le mois de mai montrent une forte hausse des ventes de voitures électriques chinoises. Faut-il s'en inquiéter ?
Alors c'est une avant-première, hein. Les chiffres seront publiés le 1er juin, mais on sait déjà effectivement que les voitures électriques chinoises percent de plus en plus donc, sur le marché européen. Voitures électriques, je dis bien, alors sur ce créneau, les prix des voitures électriques chinoises sont inférieurs à ceux des européennes et c'est ça la menace. Et d'ailleurs, en avril dernier, la Chine est devenue le premier exportateur de voitures électriques devant le Japon, incluant bien sûr un modèle américain Tesla, puisque Tesla fabrique une partie de ses modèles en Chine. Alors, le concurrent numéro un de Tesla s'appelle BYD, B-Y-D. Vous avez sans doute vu ces trois lettres, peut-être dans la rue en France. Ça veut dire « construis ton rêve ». Voilà, c'est une marque qui arrive en force avec d'autres marques, hein, comme MG et Waze, et bien d'autres que vous verrez de plus en plus. Cinq modèles d'ailleurs de BYD vont arriver en France très bientôt. Ils sont 100% électriques, avec une usine en vue en Europe, et donc des bonus qui seront versés pour les acquéreurs. C'est là le grand danger, parce qu'aujourd'hui, cette marque est déjà numéro 2 mondial de l'électrique derrière Tesla. Alors que va faire l'État français face à cela ? Parce que c'est une menace. Bruno Le Maire avait évoqué la possibilité de supprimer le bonus pour les voitures importées qui émettent un impact carbone, puisqu'il faut bien voir qu'il y a le transport, il y a la logistique. Et bien là, en fait, on serait exclu de cette menace. Toutes les voitures qui ont une batterie française, des pneumatiques français, des composants électriques européens. Donc vous le voyez, ce sera très compliqué de dire si une voiture a vraiment un impact carbone, si elle est 100% chinoise ou un petit peu composée d'éléments européens ou français. Et puis vous avez un modèle qui s'appelle la Dacia Spring, qui vient du groupe Renault français, qui elle est faite en Chine. Tout cela ne va pas arranger les choses de l'État français s'il veut bien sûr taxer ces voitures importées. En tout cas, l'industrie automobile chinoise qui avait raté le tournant avec la voiture essence veut prendre sa revanche aux électriques et ça n'est qu'un tout début parce que le géant chinois annonce vouloir encore casser les prix, descendre jusqu'à 10 000 euros pour des voitures électriques. Les Européens commencent vraiment à avoir peur face à cette menace. D'ailleurs, Carlos Tavares, le patron de Stellantis, l'ancien Peugeot Citroën, parle désormais de combat terrible avec les Chinois.
C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
Chaque année, près de 200 personnes sont secourues par la brigade fluviale, une brigade spécialisée de la préfecture de police de Paris qui gonfle ses équipes et s'entraîne de plus belle à l'approche des JO 2024. Sarah Varni.
C'est le même rituel tous les matins. Combinaison néoprène enfilée, les policiers de la brigade fluviale embarquent sur l'Héraclès, l'un des bateaux du service qui peut aller jusqu'à 80 km/h. Ces policiers patrouillent sur la Seine et interviennent en cas de sauvetage ou encore lors d'enquêtes judiciaires où ces plongeurs peuvent être sollicités pour des recherches d'armes ou de drogue. Au cœur du printemps, la saison est encore calme, les policiers de la Fluve en profitent pour s'entraîner. Une unité à pied d'œuvre pour préparer la grosse saison de l'été, la dernière avant la Coupe du Monde de rugby et les très attendus Jeux Olympiques 2024.
Quand il y a des événements particuliers comme ça, il y a vachement de renfort de, des effectifs qui sont compétents sur les quais. Il y a des CRS, il y a des CI, tous ces gens-là, on travaille tous en collaboration. Et donc nous, on est hyper vigilants sur l'eau, quoi.
D'autant que la cérémonie d'ouverture des JO 2024 se déroulera sur la Seine. L'ensemble du parcours que la centaine de bateaux emprunteront avec à bord les athlètes devra être inspecté. Des entraînements pour la brigade fluviale qui durent depuis 18 mois.
La brigade fluviale et la direction de l'ordre public et de la circulation n'a pas attendu les annonces de ces événements pour s'adapter à la forte fréquentation qu'on a, en tout cas sur les berges et sur les bords de Seine, surtout depuis l'expérience Covid.
À l'approche de la cérémonie hors normes des Jeux Olympiques 2024, la brigade fluviale s'est équipée de 8 nouveaux bateaux et les effectifs ont été augmentés pour atteindre les 95 agents, dont 30 plongeurs.
Et c'est la fin de ce grand journal de l'après-midi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci beaucoup, Michael Dorian. Dans un instant, le débat qui reprend sur CNews, Nelly Denac et ses invités, 90 minutes info, qui reviendra sur la ville de Montpellier, qui fait face à une série d'inquiétants faits divers qui mettent en cause la sécurité dans la ville. Très bon après-midi à tous sur CNews.